Bonjour et bienvenue sur Radio Rôliste, le podcast du jeu de rôle. Nous sommes quasiment en mai 2012 et c'est le numéro 15. Bonjour à tous, bonjour Cyril.
Bonjour Cobal.
Alors, dans ce numéro, nous traiterons tout d'abord des jeux dont vous êtes le héros, avec un dossier préparé par Cyril.
Des livres dont vous êtes le héros. Tu as dit des jeux.
Oui,
parce des livres. Des jeux dont vous êtes le héros, on appelle ça des jeux de rôle, on en parlera une autre fois.
D'accord. Oui, donc tu fais bien de le préciser, oui, ce sont bien les livres dont vous êtes le héros. Que par la suite, il y aura une critique de Aventure dans le monde intérieur par mes soins. Mais avant cela, les news. Alors ce mois-ci, nous avons pas mal d'infos intéressantes à nous mettre sous la dent. Tout d'abord, sache que j'ai réussi à mettre la main sur les règles de Westburg, donc le jeu de rôle du roman éponyme. Et que celles-ci sont plutôt croustifondantes narrativement parlant, si tu vois ce que je veux dire.
D'accord.
Alors, donc ces règles, en quoi elles consistent ? Donc, tu lances un D6 et après, en fonction du résultat, tu as un embryon de phrase, c'est-à-dire non et. Donc, non seulement l'action ne réussit pas, mais en plus quelque chose d'autre se passe. Quand tu fais 2, c'est juste non. Quand tu fais 3, c'est non, mais avec un petit truc positif. Quand tu fais 4, c'est oui, mais. C'est-à-dire ton action a réussi, mais il y a un petit beans. 5, c'est juste oui. Et le 6, c'est oui. Et en plus, tu as fait quelque chose d'autre. Alors, donc ça, c'est le lancer de base. Et après, pour les difficultés, en fait, c'est organisé. C'est-à-dire, tu lances plusieurs dés en même temps. C'est-à-dire, si l'action, par exemple, est très difficile, tu vas lancer 3 dés. Et en fait, tu vas choisir le résultat le plus mauvais.
D'accord.
Tu prends le pire résultat. Et même chose si l'action est juste un peu moins difficile, tu vas lancer 2 dés et tu vas prendre le plus mauvais. Et à l'opposé, pour une action très facile, tu vas lancer 3 dés et garder le meilleur. Voilà. Et donc, il y a juste ces deux petits tableaux. Et grâce à ça, en fait, ça vient. Ça donne des résultats qui sont non pas des chiffres. Mais plutôt des conséquences visuelles, etc. Donc c'est plus sympa. Donc sinon, il y a plein d'autres éléments, évidemment, que vous pourrez découvrir en lisant le bouquin. Notamment, ça décrit un peu le quotidien d'un garde, puisqu'on va incarner l'un des gardes des patrouilles de Westburg. Donc il y a tout ce qui concerne la hiérarchie, les traditions de la garde, les missions classiques pour un garde de la cité, etc. Donc voilà, plein de choses intéressantes. Je n'ai lu évidemment que les règles, je n'ai pas pu mettre la main sur le scénario, ce qui arrivera peut-être. Mais voilà, donc en tout cas ça progresse bien et c'est vraiment super agréable à lire et tout, et c'est vachement sympa. J'attends ça avec une certaine impatience.
Pour quand le jeu est-il prévu?
Alors pour quand le jeu est prévu, là tu me poses une colle, je sais plus, je regarderai, je le mettrai sur le site.
Je crois que c'est en 2012-2013, non?
Oui, ça doit être ça, genre pour la fin de l'année ou l'année prochaine. Enfin, remarque, ce sera un petit bouquin, donc ce sera peut-être plutôt pour cette année, puisqu'il veut faire des livrets, je crois, de 64 pages, et qui contiendront à chaque fois le du scénario, et puis les trucs qui seront utiles dans le scénario, et voilà, c'est tout. D'accord. Pour que ce soit facilement utilisable par les rôlistes trentenaires avec enfants. Alors, donc, à part ça, j'ai fait une petite virée dans un estaminet parisien et j'ai visité les caves de Les Cavaliers.
Raconte-nous tes souvenirs.
Non. Donc là, évidemment, Cyril se moque de moi parce que je lui ai raconté le plus en détail ma soirée dans ce magnifique endroit. Et voilà. Bref.
Et donc, ça s'appelle comment et
ça s'appelle Les Caves Alliées. Donc, et ça se trouve rue Grégoire de Tours, si je me souviens bien. C'est au métro Odéon.
Comment tu écris Cavalier ?
Les Caves,
oui.
Alliées.
D'accord.
Voilà. Oui, ça fait un peu, tu sais, comme les noms des coiffeurs, c'est la boîte
oui.
à tif.
D'accord.
Tu
as quand même peut-être un avertissement à...
Comment ça ?
Je sais pas,
ah oui, alors il y a certaines boissons qu'il ne faut mieux pas prendre trop. C'est tout. Et tiens, d'ailleurs j'ai interviewé le patron et je te propose de l'écouter maintenant. Bonjour Christophe.
Bonjour David.
Donc nous sommes ici dans le bar médiéval Les Cavaliers, qui s'est ouvert il y a peu, il y a combien de temps exactement ?
Il a ouvert le 12 avril exactement.
D'accord. Et voilà, je crois que c'est le premier bar de ce genre qui s'ouvre à Paris, aussi bizarre que ça puisse paraître.
Tout à fait. En fait, nous avons eu cette idée-là parce que rôlistes, et il y aura aussi beaucoup d'amis rôlistes autour de nous, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque. C'est-à-dire que les appartements parisiens sont petits, il y a souvent des voisins embêtants, des enfants, des choses comme ça. Donc on s'est demandé comment on pouvait pallier à ça et on s'est dit la meilleure solution c'est d'avoir un bar tranquillement, comme ça on peut fournir nourriture et boissons tout en jouant tranquillement.
Ah d'accord, donc dès le début le concept de proposer un espace de jeu était dans le... C'était dans l'idée.
Ah tout à fait. L'idée de base, c'est d'avoir un bar médiéval fantastique et rôliste. C'est
d'accord.
bien les trois qu'on propose
d'accord.
ici.
D'accord. Ah bah écoute, je pense que c'est plutôt réussi puisque j'ai vu dans la cave, enfin en tout cas dans le sous-sol, qui est très joli d'ailleurs.
Oui, on a une belle cave voûtée en pierre.
Et j'ai vu donc un groupe de jeunes rôlistes qui s'apprêtaient, enfin qui venaient de créer leur perso ou quelque chose comme ça.
Alors en fait, on a plusieurs choses qui ont été proposées ici, c'est-à-dire que nous, effectivement, on offre des possibilités pour jouer, quel que soit le type de jeu d'ailleurs, c'est pas parce qu'on est, nous, sur une thématique médiévale à la base, qu'on reste bloqué sur le médiéval. L'avantage des caves voûtées, c'est que ça existe à toute époque, du coup, on peut jouer, on a des gens qui nous ont demandé pour jouer à des parties de Star Trek, donc on peut vraiment jouer à tout, on a des gens qui jouent à Magic, on en a qui jouent à Warhammer, on a un peu de tout, et on a surtout des gens qui nous ont demandé s'ils pouvaient faire un huis clos. Justement en se disant que le lieu se prêtait bien, puisqu'on a plusieurs d'accord. espaces séparés, mm-hmm. et donc de pouvoir se faire justement
un live
en direct,
en
se faisant une petite murder party, puisqu'avec les caves c'est assez facile, même certains que ça aspirait tout de suite en rentrant, ils se sont dit qu'ils avaient de bonnes idées pour faire un scénario en direct. D'autant plus que dans les caves, comme on a en plus un puits, on a donc des éléments... architecturaux qui permettent de rentrer directement dans l'esprit.
D'accord, très bien. Et oui, en fait, j'ai découvert votre bar. Alors, non seulement effectivement, il y a un event Facebook, tout ça, machin. D'ailleurs, vous allez recevoir l'équipe qui va s'occuper de la prochaine édition de Néphilim.
Tout à fait.
Donc samedi prochain, bon, au moment de la diffusion de ce podcast, a priori, malheureusement, ce sera déjà passé.
Ah, ce sera samedi 15. Donc il y a une chance sur deux.
donc voilà, il y aura peut-être...
Enfin, vendredi 15.
Et donc voilà, il y aura des événements, des choses comme ça. Oui, donc je disais, je vous ai découvert, je crois, sur la page de la FFJDR.
Tout à fait. On a des partenariats, nous, en fait, avec plusieurs ou associations ou entreprises, puisqu'on a un partenariat donc avec la FFJDR
oui.
pour la communication, puisque le but du jeu du bar, à l'origine, c'est quand même de réunir au maximum les rôlistes
oui.
Et ceux de tous horizons. On a aussi un partenariat avec Opal. au Opal Rôliste, qui est quand même la plus grosse association de rôlistes.
Une excellente communauté de rôlistes.
Voilà, sur la région parisienne, ils regroupent presque 1600 joueurs, donc c'est assez important. Et eux, ça leur permettait d'avoir un lieu, justement, où ils peuvent se retrouver très facilement, faire les IRL, puisqu'ils font des IRL d'une façon régulière. Donc ici, ils la font le troisième mercredi de chaque mois, de façon maintenant automatique. Et on a un partenariat aussi avec un magasin qui s'appelle l'Échoppe Médiévale, qui fournit là tout le décor, avec la possibilité pour toute personne qui vient dans le bar d'acheter le décor. C'est-à-dire que tout ce qui est accroché ici est à vendre.
D'accord.
On aime que les choses changent, donc le mur, toute la décoration peut changer, et la carte change aussi, puisqu'on a 31 bières à l'heure actuelle, et ces 31 bières tournent, rien ne reste fixe.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous allez offrir au fidèle auditeur de Radio Rôliste qui viendra boire un coup ici?
Si jamais le cas se présente et qu'il explique qu'il est venu par la radio...
Pas de panique, j'ai très peu d'auditeurs.
J'ai pas de soucis avec ça. On pourra toujours leur faire les tarifs happy hour, il n'y a pas de soucis.
Donc voilà... Vous venez enfin de gagner quelque chose grâce à ce podcast, soyez-en fiers.
Voilà, exactement. Ah, il faut.
Bon, eh bien, écoute, merci beaucoup. Quant à moi, je pense que je vais reprendre un verre d'hydromel et voilà, on va laisser les choses passer.
Ce sera avec plaisir, David.
Et maintenant, retour à l'émission habituelle. Salut.
Alors voilà, après cette interview, voyons voir qu'est-ce que j'ai comme autre info. Alors oui, Donjon est sur le point d'arriver, ça y est, qui est Maître Cine sur narrativiste.eu, était en train apparemment de faire les packaging pour envoyer aux gens, donc ça devrait, je devrais avoir mon exemplaire d'ici une semaine ou deux. Autre chose aussi, toujours sur Ulule, décidément, on en parle beaucoup. Il y a le nouveau jeu de Brand qui s'appelle Ryutama, qui est un jeu de rôle japonais, donc qui a été ululé à 473% de la somme qui était demandée au début.
D'accord.
Et ça fait plus de 8 500 €, je crois, avec à peu près 150 donateurs.
C'est joli. Hein.
Et oui, il a eu un énorme succès.
Mais parce que c'est pas n'importe qui. Enfin, pour d'écrire des jeux de rôle médiévaux japonais, on lui fait confiance, quoi. Enfin...
non, mais il ne l'écrit pas, il le traduit.
Il le traduit, ah pardon.
Enfin, il le fait traduire. Voilà, c'est vraiment un jeu japonais.
Ah, c'est un jeu japonais.
Par des japonais. Voilà.
Ah,
et d'accord. En fait, l'univers de jeu, c'est une sorte de rêve de dragon. Où il y a des dragons qui représentent les divers aspects de la réalité, voilà. Et avec des personnages qui vont accomplir des voyages dans cet univers.
Est-ce qu'un jeu de rôle japonais a déjà été traduit dans le passé ?
Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout.
Parce que je sais que des jeux de rôle non japonais ont été traduits en japonais. Je sais que RuneQuest avait pas mal de fans là-bas.
D'accord.
J'imagine que Donjons et Dragons a dû être traduit, c'est normal.
Les classiques, quoi.
Je ne me souviens pas d'avoir entendu parler qu'un jeu de rôle japonais...
Ah, mais il y a peut-être des jeux avec des mechas ou des machins comme ça, non ?
Non, c'était Talsorian, par exemple, qui avait fait, il me semble... ou Fasa, je ne sais plus, qui avait fait MechWarrior, des trucs comme ça. C'est pas un univers
japonais. Ah oui. Ah oui,
japonais,
effectivement, ouais.
Je crois pas.
Bref. Donc oui, et le jeu va être traduit donc en français et en anglais, donc pour le marché américain, je suppose. Et puis voilà. Donc dans cette version française, il y aura plein de scénarios exclusifs à cette version française. Donc avec un scénario de Hino, un scénario de Grumpf et un scénario de Bob Darko, enfin sur Cassius Nose, son nom c'est Laurent Devernay, plus des scénarios exclusifs pour les souscripteurs, etc., etc. Voilà, donc c'est très... ça s'annonce vraiment sympa, moi j'ai hâte qu'il sorte, et d'en faire les critiques pour le podcast. Bon, sinon, tiens, un truc rigolo que j'ai lu récemment. Il y a un site qui s'appelle Top Chrétien,
qui a fait un article sur le jeu de rôle. Alors évidemment, c'est un tissu d'ânerie qui est très rigolo à lire. C'est façon, tu sais, un peu comme le donjon de Chic, tu sais.
Le donjon de Chic.
C'est le mec qui s'appelle Chic, je crois, le dessinateur.
Ah non, je connais pas.
Tu te souviens pas, je crois que Cassius l'avait montré.
Ma référence pour les textes pseudo-chrétiens disant que les religions sont des satanistes, c'est la parodie du finlandais Nihilo Pasi Virta. Satan Game, un truc qui traîne depuis 15 ans sur internet.
Ah non, je connais pas ça.
Je sais pas, c'est un classique ça, franchement.
Ah, d'accord.
En fait, il publiait les lettres d'insultes qu'il recevait des rôlistes qui protestaient, disant mais non, c'est pas du tout comme ça, notre loisir. C'est un gros troll en fait.
Oui, oui, d'accord.
C'est un classique vraiment son.
D'accord. Ah, mais j'ignorais.
Il a dû le mettre en ligne depuis, je sais pas, 80. Milieu des années 90, peut-être.
D'accord, d'accord. Bah écoute, je verrai ça. Bon, alors, je continue sur mon histoire. Donc, évidemment, alors, la FFJDR a réagi en demandant un droit de réponse au site en question.
Ils ont envoyé leurs avocats.
Voilà, exactement. Et, oui, et aussi Alias a posté un message sur son blog. Qui s'appelle « Petit traité de surmédiatisation à l'usage des rôlistes », qui est très sympa. Je mettrai les liens et tout, histoire qu'on rigole un coup.
C'est quoi ton opinion sur la question ?
Bah, mon opinion sur la question, c'est que, après tout, ils sont dans le rôle d'envoyer comme ça des demandes de réponse, des machins. Je pense que c'est pas complètement inutile, même si en l'occurrence le site Top Chrétien machin, enfin je sais pas, je pense que j'aurais plutôt laissé tomber.
Oui, enfin.
Parce que juste des, en rire quoi, mais parce
oui,
que
des,
c'est trop
des,
bête.
Des gens mal informés ou qui se retranchent dans leurs préjugés, on voit pas l'échanger avec un droit de réponse.
Oui,
ou...
voilà, c'est ça.
De toute façon, ils nous ont déjà fermé nos clubs il y a 15 ans. depuis, ça y est, on a un ouais. job et si on veut faire du jeu de rôle chez nous, on peut le faire.
Ouais. Oui, donc du coup, j'ai recherché sur le net la fameuse BD dont je parlais tout à l'heure, où tu sais, il y a une fille qui fait du jeu de rôle et en fait, tu la vois
oui.
habillée en toge.
Oui, attends, c'est genre une BD américaine, mais même
oui.
pas. Enfin, d'un pamphlet
oui,
chrétien,
c'est
ça, c'est d'accord.
Ça,
ouais.
C'est ça.
Ah, ça date,
c'est ça la
ça
BD
date, ça.
De Chic dont je parlais tout
d'accord.
à l'heure. Et donc, en fait, sur le site The Escapist, il y a une page qui s'appelle sur Dark Dungeons. Et où il y a des dizaines de parodies de ce truc-là, et c'est assez rigolo.
Ah, je te demanderai le lien après.
Je le mettrai sur le site. Alors, autre chose, il y a un dernier petit truc. Donc, tu sais que moi, j'attends toujours ma version spéciale de Deadlands Reloaded. C'est qui était donc ils vendaient en fait deux versions, une version avec juste le bouquin. Et puis une version plus avec des jetons de poker, des jeux de cartes, une caisse en bois pour une caisse à whisky pour ranger le bouquin et tous ses accessoires. Et en fait il y a eu apparemment pas mal de problèmes de fabrication. Et du coup la boîte en bois ils ont laissé tomber et ce sera un coffret. Donc toilé ou un truc comme ça. Et là, la version qu'ils ont fait faire, elle est trop petite et le bouquin rentre pas dedans.
La malédiction.
Voilà. Donc c'est encore retardé, mais ça devrait finir par enfin arriver. Et voilà. Bah écoute, je crois que je suis au bout de mes news. Tu as des choses à rajouter, toi, par hasard ?
Non.
Non. Je suis étonné.
C'est pas que je n'ai pas fait mes devoirs, c'est qu'il ne s'est rien passé du tout dans le billet du jeu en général. Voilà.
D'accord.
D'accord.
Très bien. Bon, et bien dans ce cas, je te propose que l'on passe à ton dossier livre
dont vous êtes héros. Dossier que j'avais déjà d'ailleurs déroulé longuement lors du podcast Maudit, le numéro 13.
Ah oui, effectivement.
Et me revoilà pour en reparler. Mais ça tombe bien parce que en fait, les livres dont vous êtes le héros font l'actualité un petit peu en ce moment. Enfin, notre actualité d'Euroliste. Je le sais parce que ma boîte mail est complètement pourrie par les innombrables communiqués de presse de Sébastien Boudot du Grimoire. Je te salue Sébastien si tu m'entends. Parce que tu es vraiment très très productif et ça se voit. La nouveauté en fait c'est
Mais il t'écrit quoi? Il t'écrit qu'il est la veuve d'un ministre nigérian.
Et... Mais non. Sur la page Facebook du Grimoire, il y a régulièrement des mises à jour et notamment le projet de réédition. Là c'est chez l'imprimeur, c'est arrivé, je ne sais pas exactement si ça a été livré à ceux qui en ont fait la commande, mais ils ont réédité les 4 premiers exemplaires de 2 séries de livres dont Z l'Euro qui sont des grands classiques, Défi Fantastique et Loup Solitaire. On se souvient que le Grimoire a déjà publié le jeu de rôle du Loup Solitaire.
Ouais.
La publication c'est le 7 juin, donc par rapport.
D'accord.
Voilà. nous sommes en plein dedans pour l'auditeur, ce sera déjà passé, mais nous sommes vraiment en plein dedans. Peut-être d'ailleurs, suivant la rapidité d'exécution du père Cobal, les auditeurs pourront-ils apprendre qu'il y a un jeu à énigmes qui sera ou qui est lancé sur le site de Gallimard pour gagner des petits lots à l'occasion de cet événement. Et il y a aussi en plus la sortie d'un nouveau livre dont vous êtes l'Euro inédit,
au
grand format, à 12,80€, donc c'est un peu plus cher que les précédents qui sont des rééditions, qui s'appelle Le Pirate de l'au-delà.
Attention, ça va dépoter. Hein.
Voilà, donc tout ça c'est une coproduction Grimoire et Gallimard Jeunesse. Et donc c'est la bonne occasion pour parler d'une manière générale des livres dont vous êtes les héros. Il y a aussi un petit peu dans les news quand même, je peux le mentionner, une actualité des livres dont vous êtes le héros numérique, parce que là on parle de livres dont vous êtes le héros traditionnels, des livres qu'on manipule, etc. Mais il y a des expérimentations, etc., qui sont faites ici et là. Je vois qu'il y a une société ou une boîte d'édition qui s'appelle Le Morse, donc sur walrusbooks.com. Alors walrus, walrus tiret o books books.com, qui se lance dans l'édition de livres dont vous êtes l'euro numérique, enfin au format numérique. La collection s'appelle Rendez-vous au 14. Donc tu te souviens...
Le rendez-vous au paragraphe 14.
Voilà. Le paragraphe 14, c'est une référence à une gamme dont on va parler juste après, donc je ne m'étends pas là-dessus. Le premier titre de leur collection s'appelle La Bibliothèque Infernale, d'un certain Neil Jomans, je ne sais pas comment on dit.
D'accord.
Et à savoir, les soumissions sont ouvertes dans tous les genres, parce qu'on a été habitués... En tout cas, moi, Cobal, et puis la plupart de nos auditeurs, durant notre adolescence ou notre enfance, à des jeux au thème quand même assez bien ciblé, médiévaux fantastiques, science-fiction, médiévaux fantastiques. Et là, ça s'ouvre à des thèmes moins explorés, enfin, c'est-à-dire que la romance, bien sûr la science-fiction, l'historique, l'érotique, pourquoi pas, le récit sociologique, enfin il n'y a vraiment pas de limite, visiblement ne se fixe pas de limite de thème, voilà, il ratisse large, je trouve que c'est une très bonne idée. Je ne l'ai pas encore testé.
J'étais en train d'imaginer une version porno. Et...
Bah, écoute, pourquoi pas, hein, tu proposes ça à l'apéro du capitaine, et je pense que ça les enthousiasmera.
En plus, oui.
Voilà, ils ont le contact et tout, ils pourront faire des trucs. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Dans les news aussi, vite fait, il y a eu... J'ai reçu un exemplaire de la revue Héros, qui contient quelques aventures à chaque fois sur le mode livre, vous êtes le héros. Moi j'avais acheté le numéro 2, donc c'était il y avait Opération, je relis mes notes, Perovska, enfin où c'est, il y avait des Kalachnikov, des talibans, des trucs comme ça, c'était rigolo.
Ah, d'accord.
Donc ça c'est les news. Maintenant je vais vous parler d'une manière générale pour ceux qui n'auraient pas connu cette période, de ce que sont les livres dont vous êtes l'héros et des gammes qui, selon moi, ont, ont marqué le genre. Le livre dont il est heureux, déjà le concept, c'est que vous baladez à l'intérieur d'un livre en sautant de paragraphe en paragraphe, en choisissant le paragraphe où vous rendre, ou alors en suivant les instructions suite à des combats peut-être qui sont menés comme dans des jeux de rôle en lançant des dés. Je dirais que le livre dont vous êtes le héros apprend surtout à tricher, car il est facile en fait de prendre la mauvaise direction dans une aventure, et on se rend compte que ce qui est important, c'est le plaisir de la découverte, et c'est, je pense, le principal enseignement paradoxalement des livres de l'héros, c'est que l'homme n'a que 10 doigts, donc pour glisser nos doigts dans les livres, pour garder la possibilité de revenir en arrière au paragraphe où on a pris le mauvais tournant, c'est bon d'avoir plein de doigts ou des
marqueurs. Surtout que en général dans ces livres là, tu sais, quand tu choisis la mauvaise porte ou la mort est immédiate, hein.
Oui,
très injuste en plus.
Oui, voilà. Parfois c'est très très injuste, et parfois on te laisse. Il faut revenir très 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 loin, très loin en arrière pour récupérer un objet qu'il faut absolument avoir, même si c'est pas évident. C'est pas évident de construire non plus un livre dont c'est l'héros si on veut échapper à ce genre de mécanisme un peu qui enferme les joueurs dans une sorte de labyrinthe où en fait il faut parcourir le labyrinthe en long en large, c'est-à-dire temporalement aller en avant, aller en arrière, etc. afin de trouver la bonne façon de vivre l'aventure. C'est pas forcément le meilleur gameplay, mais il y a des livres dans les héros qui ont échappé à cette des gammes qui ont réussi à échapper à ce syndrome, je dirais. Alors ce n'est pas le cas de Défi Fantastique, alias Fighting Fantasy en anglais, donc c'est la gamme initiatrice originelle de Ian Livingstone et Steve Jackson. On peut rappeler l'anecdote sur Steve Jackson. Je me souviens dans un vieux casus là, ou dans un autre magazine, enfin bref, dans un vieux magazine de jeux de rôle, il y avait une interview de Steve Jackson, l'américain,
oui,
qui répondait à l'intervieweur qui demandait: mais alors on vous confond pas de temps en temps avec le Steve Jackson anglais qui a écrit les livres de l'héros? Il dit: si, mais en fait on a fait un deal entre nous, et le jour où ça deviendra trop insupportable, on tirera au sort celui qui prendra un nom complètement improbable, genre Gary Gygax ou un truc du style.
D'accord.
Voilà, enfin, bon, c'était l'anecdote, le vieux souvenir de Casus peut-être. Eux, c'est des livres dont c'est l'héros, très classiques, médiévaux fantastiques, et à la base, au début, avec Le Sorcier de la Montagne de Feu, le mythique premier livre dont c'est l'héros. Ils ont eu un peu la prime au premier, quelque part, puisqu'ils ont installé les mécaniques essentielles, mais en contrepartie, ils n'ont pas forcément une très grande originalité en termes de gameplay. J'ai eu l'occasion d'acheter sur la librairie impériale, donc qui est la boutique du Grimoire, un exemplaire d'un volume récent de cette série Défis Fantastiques, récent dans le sens 2005 peut-être, dans ces eaux-là, je l'ai pas noté, mais malheureusement, j'étais assez déçu. C'est vraiment, ça reste très
très basique.
Très basique, et il n'y a vraiment pas d'indice. Donc les choix ne sont pas informés. Parce que c'est un roman à choix multiples. Et,
oui.
On n'a pas forcément toujours toutes les clés pour réfléchir ou faire des choix intelligents. C'est le hasard. On ne sait pas si
on
est dessus. Donc vraiment, il faut avoir plein de doigts pour revenir en arrière. donc ça c'est pour Défi Fantastique, qui quand même laisse de bons souvenirs avec des titres comme Le Labyrinthe de la Mort qui vous fait pas mal fantasmer, en tout cas.
Moi j'avais Le Temple de la Malédiction.
Ah oui, il était pas mal celui-là, avec l'homme serpent en couverture.
Oui, avec une magnifique couverture.
Sinon, on peut parler de, alors, ce qui est pour moi une série qui est dans le prolongement quelque part de Défi Fantastique en termes de système, et c'est normal parce que c'est aussi une série de Steve Jackson, c'est Sorcellerie, avec un point d'exclamation, qui propose en fait de vivre une quête où il s'agit de récupérer un artefact la couronne des rois qui a été capturée par les suppôts de l'archimage de Mampang.
Oh.
Et voilà. Et en fait, ce qu'il y avait d'original avec cette série, c'est que c'était une série à épisodes avec par exemple, un élément que tu pouvais récupérer dans le premier épisode allait te servir dans le quatrième. Il y avait vraiment des liens entre les livres de l'héros, ce qui fait que ça dépassait le cadre habituel d'un livre de l'héros qui généralement faisait sur le format initial 400 paragraphes. Là, d'une part, il y avait plus de paragraphes, mais en plus, il y avait vraiment une histoire commune et des interactions au niveau du gameplay entre les volumes, ce qui fait que ça faisait vraiment un effet saga très, très amusant, et l'illustration était aussi très évocatrice. Il y avait la cité des pièges, il y avait de très bons passages. Il y a une autre gamme dont nous avons évoqué un des gimmicks emblématiques, qui est le paragraphe 14. C'est une gamme de J.H. Brennan qui s'appelle La quête du Graal.
Oui. Voilà.
Et donc là, je parlais de gameplay juste avant, et je regrettais un peu la pauvreté des mécanismes de défis fantastiques, par exemple. Là, c'est une gamme au contraire qui mise tout sur l'humour, d'une part. Il y a vraiment une atmosphère. C'est un peu Kaamelott avant l'heure, quelque part.
C'est vrai, c'en est assez proche.
Quand on avait fait le podcast maudit, je crois que tu avais évoqué des souvenirs sur Excalibur Junior.
Oui, l'épée de Pip. Voilà. Pipin, le héros dans la peau duquel on s'incarne. Et le héros a une épée qui lui a été donnée par Merlin, l'enchanteur. Et cette épée, c'est Excalibur Junior. Donc c'est une épée parlante et qui a peur des araignées. C'est-à-dire que lorsque dans l'un des bouquins on doit affronter une araignée, on doit l'affronter à main nue.
D'accord, les araignées qui ne sont pas des insectes. Je ne sais pas si quelqu'un pourra. Bref. Sinon, il y a l'humour. Il y a aussi, le thème est arthurien, mais il s'autorise des déviations très marrantes. Donc c'est vraiment un grand foutoir, c'est très très amusant. Sur le côté gameplay, il y a des puzzles. Et les puzzles sont très bien faits, très compliqués pour quand on est jeune, qu'on découvre. C'est très formateur quelque part. C'est
l'une des rares séries aussi qui propose, par exemple, qui demande aux joueurs d'écrire un poème, par exemple.
Ah oui.
lorsqu'on rencontre Norsferax, le vampire... Oui, il y a aussi plein de personnages récurrents. Il y a donc Nosferax, le vampire poète. Il y a aussi le Fakofuin fantôme.
Ah oui, ça me dit quelque chose.
Quand on cite son nom, on entend un roulement de tambour.
Alors, voilà, c'est un vrai délice à lire. Et si vous aimez les Monty Python, si vous aimez Kaamelott, vous aimerez Quête du Graal, que je vous conseille toujours d'acheter, parce que vraiment, c'est une des séries qui aura le mieux vieilli, je pense. Il y a une autre série qui m'a beaucoup marqué, moi, même si elle était prématurément finie. Enfin, elle n'a que deux tomes, je ne sais plus. Enfin, c'est Chroniques crétoises. C'est un collectif d'auteurs et qui s'intéresse aux aventures d'un frère, Altéos, de Thésée. Donc, Altéos n'existe pas, je crois, dans la mythologie grecque, mais Thésée, bien sûr, existe. C'est le héros qui a combattu le Minotaure, etc. Et là, l'idée, c'est que Thésée n'est pas revenu de Crète, et c'est vous qu'on envoie pour savoir ce qui lui est arrivé, et puis, résoudre la situation. Et en fait, au début, on doit choisir un dieu différent et se battre ensuite pour la faveur des dieux, éviter de se fâcher avec certains dieux. Il y a aussi un concept d'honneur et de honte qui est très adapté. Il y a une notion de destin et de consulter l'oracle. Enfin, c'est vraiment très, très adapté. C'est ce que les règles doivent être. C'est très adapté au contexte. C'est très poétique. Si vous aimez l'Iliade et l'Odyssée, vous aimerez ça.
D'ailleurs, tu pourrais développer un peu l'histoire avec la honte. Là, tu m'avais expliqué. C'était assez bien.
En fait, quand on fait des actions honteuses, il faut pas dépasser de mémoire tu as un score d'honneur et un score de honte, Et si ta honte dépasse ton honneur, je crois, de mémoire, bah, tu te suicides, en fait. Parce qu'on peut se suicider parce que se jeter du haut d'une falaise ou autre. Enfin, c'est pas le harakiri à la japonaise, c'est à la grecque ancienne, mais l'idée est là. Donc, il faut avoir
la ciguë.
Il faut avoir une conduite honorable. Et le problème, c'est qu'il est facile de faire des gaffes et d'avoir une conduite déshonorante sans vraiment l'avoir voulu. Mais ça joue sur le décalage entre ce que le lecteur perçoit
comprend,
puis ce que les auteurs spécialistes visiblement de la Grèce antique veulent faire passer sur les mentalités de l'époque.
Ah, c'est intéressant ça. C'est-à-dire que tu apprends quand même des choses.
On apprend des choses et on est aussi un petit peu toujours sur le qui-vive. En fait, quand le titre d'un paragraphe est en italique, on a la possibilité de mémoire de rajouter 20 au numéro et d'aller voir si, on devrait suivre une autre conduite, une autre ligne de conduite. Que celle que nous suggère le texte. Alors, parfois on peut se tromper, dans ce cas-là, on perd des points de honte, ce genre de choses.
Ouais.
Et puis parfois, on a le bon réflexe, peut-être, exemple, on va prendre un bateau, est-ce qu'on a le réflexe de faire une libation rituelle pour apaiser la colère de Poséidon ? voilà ce genre de choses peut-être.
Ah d'accord.
Enfin voilà, c'était assez enfin moi c'est vraiment une série qui m'a marqué. Mm-hmm. Une autre série que j'avais beaucoup aimée mais aussi avec un univers intéressant, c'est La Voix du Tigre qui permettait de jouer des ninjas et ça c'était c'était L5A avant l'heure, le livre des 5 anneaux avant l'heure.
Ouais, tout à fait.
Donc on jouait par ninja qui développait des disciplines diverses et variées. Bon, je passe dessus, hein, ça reste très classique. Ensuite, une autre série dont on doit parler, c'est Le Solitaire, parce que elle a. C'était pas forcément, je trouve, la série la mieux partie pour durer très très longtemps, parce que elle était un petit peu. Enfin, l'univers médiéval fantastique.
Un peu classique.
Ouais, n'est pas non plus. Extrêmement original. Bon, ça reste un univers médiéval fantastique. L'auteur s'appelle Joe Dever, mais il a persisté et c'est une des séries les plus suivies. Avec vraiment on joue un héros qui durant plusieurs dizaines de volumes va évoluer, va découvrir de nouveaux pouvoirs, acquérir de nouvelles responsabilités, etc. Et donc ça fait vraiment la série. Voilà, la série sur le long cours. Bon, il y en a des tas d'autres, des séries, hein, Loup Ardent, jusqu'à des séries historiques, à Enquête, etc. Mais voilà, c'était les séries qui m'avaient marqué. Tu veux en rajouter
Non.
Voilà, et donc, maintenant, je peux vite fait conclure sur un petit peu l'avenir du livre dont vous êtes le héros. On a une image peut-être un petit peu d'un loisir pour enfants parce que c'est, en tout cas pour moi c'était le cas, c'est un peu la passerelle qui nous a mené au jeu de rôle, c'est-à-dire c'était des livres qu'on trouvait à la
librairie
et qui ensuite, comme des filous, ils ont mis dans la même collection un jeu de rôle, L'Œil Noir, qui était vraiment une première expérience de jeu de rôle. Donc ça, on peut continuer à associer ça à un loisir un peu simpliste pour enfants, etc. Je pense que bon, d'une part les livres, les titres sont clairement pour certains valent mieux que ça, pour d'autres c'est pas non plus c'est vrai que c'est plus d'un niveau enfantin en quelque sorte, hein. C'est je sais pas un titre comme La Citadelle du Chaos, c'est je crois que ça va être le premier livre dans l'euro que j'ai touché. J'avais essayé de le relire quelques années plus tard, bon ça ça voulait pas haut, hein. Mais
dans l'écriture.
Oui, dans l'écriture. En revanche, bah voilà, donc quelque chose comme Quête du Graal, ça reste très lisible en raison de l'humour, etc.
Ouais.
Donc par ailleurs, voilà, le message que j'ai à dire, c'est que ce n'est qu'un média, ce n'est qu'un format, et qu'on peut On peut traiter toutes sortes de choses de toutes sortes de façons différentes. Bon, depuis des années, il y a des sites qui s'intéressent aux livres dont je les héros. Sur le site myadventuregame.com, vous pouvez faire vous-même votre livre dont je les héros. Il y a un site qui permet aussi donc de faire des livres dont je les héros qui s'appelle chooseyourstory.com. Et qui montre, enfin, ces sites montrent le potentiel énorme de ce format, hein, avec des titres qui vont du. Donc, j'avais mentionné le genre love and dating, ce genre de choses. Donc,
oh là là.
Pourquoi pas, franchement.
Tu en as regardé par curiosité ?
Non, parce que j'ai pas fait mes devoirs, mais j'ai juste parcouru peut-être celui sur Jurassic Fairview Park qui parle d'un dinosaure dans un hypermarché. Sinon il y a de la fanfiction.
Un dinosaure dans un supermarché.
Oui, enfin voilà, tout ça pour dire que c'est.
Oui, c'est vraiment tout genre.
Oui, ouais, c'est voilà. De trucs de lycéens ou enfin tout ce que tu veux. Voilà, j'ai déjà mentionné le nouvel éditeur, la Walrus, qui se lance un peu dans les livres de l'héros sur tablette. C'est un peu peut-être l'avenir du
livre. Oui, oui, sur Kindle, tout ça. Je pense que c'est le genre de support qui est idéal pour lire des livres dont vous êtes l'héros. Ce qui est bien aussi, c'est que je pense qu'il y a des mécanismes d'hyperlien, par exemple, pour passer d'une page à l'autre.
Le problème, c'est comment on fait pour tricher, du coup, maintenant.
Ah, on ne peut pas glisser de doigts virtuels entre les pages.
C'est un vrai problème, franchement. Et pour conclure, j'en avais déjà parlé, je crois, lors du précédent podcast ou de l'avant-dernier, mais dans le Casubelli numéro 2, il y avait l'affaire du vol du collier de Lady Castafiore, qui, en fait, c'est un peu le voyage en sens inverse, puisque ça va des... C'est deux pages qui montrent le voyage des jeux texte PC vers le format papier. Alors que nous, on va dans le sens inverse du livre dont est le héros papier jusqu'au livre dont est le héros numérique.
Oui, d'accord.
Tu vois ce que je veux dire, hein, tu en as parlé toi-même.
De quoi donc ?
C'est le scénario pour Parsley. Voilà.
Ah oui, de Parsley. Ouais, oui, rigolo. Tout à fait, c'est ça. C'est vrai que c'est un. Ça va forcément finir par se rejoindre quelque part.
Voilà, donc moi j'ai fini. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose.
Eh bien, non, j'ai rien à rajouter de particulier. Une question là, Walrus, tout ça, c'est en français les bouquins parus ou pas ?
Oui.
Oui. Oui. D'accord. Ok. Bon, eh bien, ma foi, merci Cyril. Alors, quant à moi, je vais vous parler d'aventures dans le monde intérieur.
Je peux te poser une question, Cobal ?
Oui.
Tu t'es jamais demandé ce qu'il y avait sous la Terre ?
Si.
Et alors, à ton avis ?
De la Terre.
et quand on creuse très 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 profond ?
Bah après, elle devient liquide.
Ah, flûte.
Mais d'autres pensent autrement. C'est d'ailleurs le sujet de Aventure dans le monde intérieur, un jeu de rôle qui est une coproduction des Écuries d'Ogias et des Ludopathes. Le jeu a été découvert par un éditeur associatif, la boîte à Polpette. Et ce jeu donc fait de 256 pages. Pour 39€. Donc ce jeu propose d'incarner un explorateur qui va donc se rendre sous la surface, donc qui est le là où nous vivons nous, donc la surface de cette bonne vieille planète. Et ils vont descendre par quelques points de passage à la surface du globe qui vont permettre de pénétrer dans le monde intérieur, c'est-à-dire un réseau de grottes immenses et planétaires. Oui.
Est-ce qu'un de ces points, c'est un volcan en Islande ?
C'est possible, oui.
Parce que tu sais, il y a un roman de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. D'accord, c'est inspiré de ça ou...
C'est un peu le même esprit.
D'accord, c'est le même
esprit. Ouais.
D'accord.
Voilà, tout à fait. Sauf que là, dans ce qu'apprécie le point de passage qui est connu est situé sur l'île du Diable.
Ah.
Donc quelque part en Méditerranée.
L'île du Diable. D'accord. C'est pas la même île du Diable où il y a le bagne.
Probablement pas.
Au nord de la Guyane. D'accord.
C'est pas situé au même endroit. Donc.
D'accord.
Et donc il s'agit d'un piton rocheux sur cette île et à son sommet en fait il y a un escalier qui s'enfonce sur des dizaines de kilomètres pour arriver jusqu'en bas, c'est-à-dire une grotte immense éclairée par des cristaux géants situés dans la voûte. Oui.
Un escalier artificiel ou naturel ?
Artificiel.
D'accord, donc il y a quelqu'un qui a...
Oui, tout à fait. Et alors, en fait, les premiers explorateurs se sont rendus compte que tout cela avait probablement été mis en place par les Atlantes. Et oui, c'est la grande civilisation qui eût régné sur le monde. Et couper les accès entre le monde du dessous et la surface, probablement pour les protéger les uns des autres. Et l'exploration de ce monde intérieur commence en fait aux alentours de 1890. Donc c'est là, évidemment, ce sont ceux qui explorent ça sont des Britanniques, car l'Empire britannique, le soleil ne se couche jamais sur l'Empire.
Oui.
Donc là c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de soleil.
Il n'y a pas un soleil au milieu, à l'intérieur.
Non, il n'y a pas de soleil. Les grottes sont éclairées par des cristaux géants et luminescents. Bon, il y a parfois des trous dans le plafond. Donc dans ce cas-là, c'est directement la lumière du soleil.
D'accord, des trous très droits et très longs.
Enfin, oui, voilà, c'est ça.
Un peu comme dans la Moria, où au milieu de la montagne, on peut voir le soleil, mais par une sorte de passage qui traverse la pierre sur des centaines de mètres, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Donc dans ce jeu on incarne des explorateurs certes, mais tout un tas d'explorateurs. Ça peut être aussi bien des diplomates qui seront chargés d'établir des contacts et des ambassades chez les peuples dont les personnages seront amenés à traverser les terres. Donc il y a une tonne de peuples décrits dans ce livre. Donc alors il y a de tout, les Atlantes, il y a Mu également.
D'accord.
Il y a des Ophidiens, il y a qui sont des espèces de Cthuloïdes bizarres, on dirait des espèces de profonds. Il y a également une race de créatures super super fragiles, mais qui sont engoncées dans des énormes armures qui ressemblent un petit peu à celles qu'il y a dans le jeu merde, comment ça s'appelle déjà, tu sais, avec les daddies et les petites filles, comment ça s'appelle ce jeu vidéo, un jeu vidéo.
Un jeu vidéo
tu
avec
sais,
des
on
daddies
est...
et des petites filles.
Alors des là. Daddies.
Non.
Je crois que ça s'appelle les Big Daddy ou je sais plus quoi. Tu sais, qui portent des espèces de casques de plongée et qui ont une perceuse à la place
de
main.
Ah oui, je vois, c'est... j'ai pas joué à ce jeu, mais je vois le poster.
Voilà, donc il y a un peuple qui ressemble un peu à ça.
D'accord.
Parce que donc ils sont très faibles, mais ils vivent très profondément dans le sol, enfin très profondément quoi.
Est-ce qu'ils se font coloniser tous ces peuples par l'Empire britannique ?
Alors non, pas vraiment, parce que déjà d'une part c'est immense et puis c'est toujours sont que des petites expéditions. Voilà. En fait, le premier, il y a une ville en fait qui existe qui s'appelle Port Arcadia, qui est donc situé juste en dessous de l'escalier dont j'ai parlé tout à l'heure, Et c'est de là que partent les expéditions aux quatre coins du monde pour découvrir tout ça. Donc, je disais, je parlais des types de personnages. Donc, je parlais des diplomates, mais il y a également tous les scientifiques qui vont étudier la faune, la flore. Il y a également les cartographes. Voilà, il y a tout un, il y a aussi des soldats, il y a des gens qui sont aussi chargés de tout ce qui est logistique et comment dire, direction d'une caravane, etc. Il y a d'ailleurs des règles, enfin il y a des trucs très intéressants sur justement comment on monte, comment on monte une caravane. Il y a un truc, un petit paragraphe que j'ai trouvé assez intéressant sur notamment le fait que la nourriture, celle qu'on emmène en général, si on, même si on tient, si on la rationne suffisamment, au bout de 10 jours, il y en a plus, quoi.
Oui, parce que oui, d'accord.
Et en fait, 10 jours, c'est pas long du tout. C'est-à-dire, tu ne vas pas très loin. Et donc, ce qui signifie qu'il faut que tu t'arrêtes fréquemment et que tu décides de consacrer du temps à la recherche de la nourriture. Et c'est pas possible partout, ça dépend des terrains. Et après, il faut savoir ce qu'on mange. Donc, là aussi, les scientifiques sont utiles pour ça. Quand je parlais tout à l'heure de Port Arcadia, c'est lié au fait que, en fait, les joueurs, enfin, les personnages, pardon, sont tous membres du Club Arcadia, qui est un peu une société de gentlemen, tu sais, qui boivent du cherry dans des bureaux lambrissés.
En fumant des cigares.
En fumant des cigares.
Et en lisant le Times.
Oui, voilà, ou la bourse. Ce club Arcadia est aussi une sorte de club de gentlemen, mais à portée philanthropique, voilà, qui sont chargés en fait de garder le secret de la présence de ces passages de façon à ce que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas des gens qui essayent de voler, tuer tout ça, les gens du dessous, quoi.
Ouais, surtout de façon à ce que eux, l'élite, se gardent pour eux tous les trésors et
alors non justement c'est vraiment un truc plutôt bénéfique et tout. En revanche, le club Arcadia a des ennemis et il y a notamment le masque noir Tatin, qui est en fait composé de gens qui ont quitté le club Arcadia en gros pour divergences d'opinion et là en fait ce sont vraiment les méchants. Ils exploitent les trésors qu'ils trouvent, ils les revendent donc pour se faire de l'argent et donc ils achètent des hommes de main. Enfin bon, voilà, c'est les méchants. il y a également d'autres groupes de méchants potentiels pour le long terme d'une campagne.
D'accord. Et donc il faut aller libérer la princesse Atlante. Qu'est-ce qui se passe durant une aventure?
Alors en fait, dans les aventures qu'on sera amené à vivre, ça peut être comme je disais, essentiellement à but diplomatique et scientifique en général. Et le fait de rencontrer des nouveaux peuples et tout ça, de tisser des liens. En sachant que dans le système il y a des éléments assez intéressants qui permettent de gérer l'attitude d'un peuple ou d'un groupe envers les personnages, qui permet de savoir à quel point ils sont estimés par ceux-ci et ce qui permettra aux personnages d'avoir accès ou non à certains types d'informations, aux secrets gardés par les peuples, etc.
On peut choisir un peu la faction avec laquelle on va devenir allié, quitte à travailler contre les autres factions, ce genre de choses.
Ah, ça peut, pourquoi pas.
Il y a de grands conflits géopolitiques dans ce monde intérieur.
En fait, c'est pas tellement dans le bouquin, c'est pas tellement décrit, géographiquement. dans le sens où il n'y a pas une carte qui dit tel peuple il est là, là et là, tel autre il habite là, et de façon à pouvoir voir visuellement, si tu veux, les zones de conflit et autres. Oui. En fait, c'est pas tellement c'est pas tellement dit, si tu veux. Il y a plus une explication générale longue pour chacun des peuples.
D'accord.
Et puis après, ben, c'est au MJ de les placer.
Avec peut-être les lieux marquants.
Alors, les lieux, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, sont décrits des types de lieux. Avec effectivement les zones de danger, ce qui peut s'y passer, éventuellement des tableaux, des règles adaptées pour certains trucs, genre les dégâts de la lave.
J'ai une question.
Oui.
Est-ce qu'il y a de la magie ?
Alors, est-ce qu'il y a de la magie ? Non.
Est-ce qu'il y a des monstres ?
Il y a des monstres, oui. Enfin, il y a des créatures, après...
Est-ce qu'il y a des dinosaures ?
Je ne sais pas s'il y a des dinosaures.
Parce
oh,
que
sûrement.
Je crois que dans l'océan intérieur du bouquin de Jules Verne, il me semble qu'il y avait des
oui,
dinosaures.
Oui, il y avait des dinosaures. Alors oui, alors, je suis en mesure de te le confirmer, il y a bien des dinosaures. Donc ça va, l'honneur est sauf, il y a bien des créatures des créatures monstrueuses à affronter ou par laquelle se faire
avec
manger.
Avec son ambassadeur avec casque colonial et cravache, ordonnant à sa petite escouade de procéder à la capture du monstre pour pouvoir l'emmener à l'exposition universelle, ce genre
oui.
de choses.
Et ils sont dit, c'est le monstre fait 250 mètres de haut. oui, ça doit être à peu près ça. Non, mais c'est moins. En fait, c'est le club Arcadia en question est quand même vachement progressiste par rapport aux coutumes de l'époque.
D'accord.
Donc, a priori, ils n'utilisent pas d'esclaves. Il n'y a pas de.
Dans les années 1880-90, il n'y a pas d'esclaves
Je veux dire, il n'y a pas d'utilisation des gens colonisés.
Ah oui, d'accord.
Des esclaves, c'en est presque.
Oui.
Et également, c'est mixte. Donc on peut incarner une femme.
Ah, d'accord, oui.
Alors ça, par exemple, il n'y en avait pas dans les clubs.
non, je pense pas, non.
Voilà. Donc celui-ci est un club progressiste. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre ? Oui, alors, donc toujours sur les décors, il y a donc les descriptions des décors génériques. Mais, et il y a également quelques grandes contrées, on va dire, qui sont également décrites, mais bon, c'est des surfaces énormes, si tu veux. D'ailleurs, il y a un truc qui est assez rigolo. Il y a une aide de jeu dans le bouquin qui permet en fait de maîtriser un scénario à partir d'une carte.
Ah.
Donc tu dessines sur une carte les lieux.
Progressivement ou...
Pardon ?
Tu dessines progressivement la carte durant le scénario ou
Non, tu la dessines avant et en fait après tu fais une sorte de parcours.
D'accord.
Voilà, qui représente en fait les divers objectifs de ta caravane en fait.
Mais c'est une bonne méthode, je pense, d'une manière générale pour tous les jeux, non ?
Ouais, oui, c'est vrai, oui,
c'est pas mal.
Ça s'y prête pas forcément pour tout, mais en tout cas pour un jeu d'exploration,
oui.
C'est vrai que c'est quand même plutôt bien. Il y a également trois scénarios dans ce bouquin, donc trois scénarios qui se suivent. Donc toujours avec l'aide de jeu dont je parlais, il y a une espèce de mode d'emploi et il y a un scénario qui est fait comme ça pour montrer comment on s'en sert.
C'est le début d'une campagne ou alors ces trois scénarios qui se suivent sont tout ?
Oui, ça fait une mini campagne en fait, une campagnette. Alors un petit mot également sur le système de jeu. Donc c'est plutôt simple, ça casse pas des briques. Voilà.
Ok, traduction, ce n'est pas un système de jeu narrativiste. Vas-y, continue,
ouais, voilà.
continue ta critique.
Non, il est simple, facile à utiliser, tout ça, mais voilà, il n'y a pas de truc particulier. Bon, ok, il n'est pas narrativiste, voilà, merde. Donc, dans ce système, tu lances 3d6. Sur un, donc, contre un seuil de difficulté. Et tu ajoutes à CD un talent que ton personnage a et qui lui permet d'accomplir l'action. Autre truc aussi, il est les personnages ont, alors je crois que le terme c'est un ouvrage, je crois, quelque chose comme ça. En gros, c'est une espèce de compétence qui te permet d'accomplir des choses sur la durée. Parce que comme tu vas être amené à être dans une caravane qui va essayer de passer des obstacles, et parfois ça prendra du temps. Par exemple, si tu as un fleuve déchaîné et que tu veux construire un pont,
il faudra avoir quoi, ingénierie ou architecture,
ouais,
ou...
voilà, un truc comme ça. Et donc ce type de compétence là permet justement de faire ce genre de truc. Il donnait aussi l'exemple, par exemple, il peut très bien y avoir des galeries ou des trucs qui sont situés très 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 très, très en hauteur. Par exemple, t'as 50 personnes qu'il faut emmener à 150 mètres de haut pour rejoindre un boyau tout au fond.
Il faut un premier de cordée, un champion de l'escalade pour.
Alors, soit de l'escalade et ou alors construire un aérostat.
Ah oui.
Oui, carrément.
D'accord, oui. C'est,
donc y aller en ballon. Enfin.
Ça m'évoque aussi un tout petit peu, même si c'est pas vraiment le même contexte, mais il y a aussi des Atlantes, une BD de Black et Mortimer qui s'appelle L'énigme de l'Atlantide.
Oui, 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 tout à fait. Oui, moi aussi, j'y ai pensé. C'est... sauf que dans Black and Mortimer, c'était ils avaient une science. Oh, mais remarque, je dis des bêtises parce que dans ce bouquin-là aussi, les Atlantes ont, ouais, une science incroyable.
D'accord.
Simplement, l'espèce s'est éteinte. En gros, il en reste quelques-uns, mais qui vivent très retirés et ils vivent sous l'eau, je crois. Et évidemment, ils ont laissé un petit peu partout des vestiges contenant des technologies effrayantes. Ou des cités d'or au choix.
Oui, oui, oui. Oui. Ouais, ces références, ça donne envie de,
voilà,
de jouer. Mais des jeux de rôle d'exploration, on en avait déjà eu quelques-uns de bien. Il y avait Guild, peut-être, qui était le plus connu, non ?
Oui, oui, Guild, tout à fait.
Super jeu, ça.
Ouais. Et sinon, il y a aussi, comment il s'appelle, X-H-E-X, là.
H-E-X,
ouais, tu pas. Sais, c'est aussi un jeu d'exploration.
Non, vraiment, je ne connais pas, je suis désolé.
Mince.
Sinon, dans le domaine victorien, on avait des trucs du style Space 1989. Space 1889.
Space 1889, là où les Belges sont les méchants, c'est ça? C'est ça, hein, il me semble bien.
Je sais pas, j'ai jamais lu ce bouquin. Mais je regrette. Mais là, d'ailleurs, tu... Bon, il y a un monde intérieur et tout, mais est-ce que c'est un jeu que tu as trouvé original? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont marqué? Parce que, bon, franchement, inventer les Atlantes dans un jeu, est-ce que c'est un jeu d'exploration dans la terre creuse de plus, quoi, entre guillemets? Ou est-ce qu'il y a une histoire, un truc qui fait vibrer et tout?
Alors oui, c'est vrai, je pense que tu touches peut-être un peu du doigt le truc qui pourrait faire que le jeu plaît pas, ou voilà. C'est que effectivement on est plutôt dans du classique, mais d'un autre côté c'est aussi un peu ça qu'on vient chercher quand on veut un jeu d'exploration de la terre creuse, quoi.
Oui,
c'est...
Oui, mais c'est pas forcément.
J'ai trouvé que le jeu était vraiment bien. Il est très sympa et tout. J'ai regretté en revanche qu'il n'y ait pas peut-être plus d'illustrations de décors, en fait.
Ah oui.
Et
pour donner un peu de matière première à l'imagination.
Oui, voilà, pour mieux visualiser les situations qu'on est susceptible de rencontrer. Il y a quand même pas mal d'illustrations, hein, mais j'ai regretté qu'il n'y en ait pas plus.
Ça fait penser à la BD, ça, cette illustration. Alors, je montre une illustration, une sorte de barrage, peut-être Atlante, je ne sais pas, mais qu'on ne demande qu'à faire céder. Non, c'est pas
Ah oui. si, ça ressemble en tout cas. Oui, c'est probablement une aventure où à la fin il y aura un grand crack et puis des gens qui s'enfuient.
Mais bon, donc toi tu as apprécié le jeu, la lecture t'as bien plu.
Oui, oui, je me suis pas ennuyé. Le jeu est écrit de manière agréable. Je l'ai trouvé sympa, mais je sais pas, il manque peut-être un petit truc, quoi. Un petit truc en plus.
D'accord, donc bien, mais pas top.
Voilà, c'est ça. bah écoute, maintenant que j'ai terminé, et voilà, donc c'est terminé.
Ouais.
Et ma foi, on vous dit à la prochaine fois. Cyril, je suppose que tu n'as toujours rien à rajouter.
Non, 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 attends, je cherche là, non.
Bon, on vous dit à la prochaine fois. Merci de nous avoir suivis. Et puis, voilà. Ciao.
Salut.